Alors on va prendre Esther chapitre 4 et on va lire jusqu'au chapitre 5 verset 8. Esther 4 jusqu'au chapitre 5 verset 8. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hatak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée: « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait demandé, ordonné. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: « Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit: « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit: « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit: « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Voilà, alors on est dans l'Ancien Testament, donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, on est dans le royaume de Perse, hein. Donc on est à Suse, la capitale. Et ici, on est avec un personnage qui est le roi Xerxès, Assuérus, appelé ici dans notre texte. Et pour vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, donc dans la première partie de ce livre d'Esther, on voit une jeune juive qui est élevée soudain à devenir la reine du roi de Perse. Et donc, après cela, eh bien, on voit un méchant homme, Aman, qui est en colère vis-à-vis de Mardoché, ce juif, et qui décide de publier un édit, demande au roi de publier un édit pour massacrer tous les juifs. Donc voilà un petit peu le contexte. Et donc on va décortiquer, lire, essayer de comprendre un petit peu tout ce qu'on peut retirer de ce passage. Juste avant, j'aimerais m'incliner encore une fois dans la prière. Seigneur éternel, merci, merci Père pour ce texte. Tu nous as laissé ces paroles pour nous parler et nous faire du bien, nous parler de toi et nous enseigner des choses sur ta personne. Père, s'il te plaît, que tu veuilles bénir, que tu veuilles te glorifier, nous encourager par les Écritures, parce qu'elles sont la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on est ici devant une situation de crise. C'est une situation de crise. C'est une circonstance particulière où il y a un danger, un péril, non seulement pour Mardoché, ce juif, mais aussi pour tout le peuple juif. La méchanceté d'un seul homme qui était à côté du pouvoir, à côté du roi, a fait basculer tous les juifs, toute une nation, dans l'angoisse. Ils seront massacrés le 13e jour du mois de mars, donc 10 mois plus tard, un peu moins d'un an. C'est comme un génocide qui est programmé. Voilà ce qui va arriver. Donc c'est une situation de crise. Quand il y a un danger imminent dans un pays, on appelle ça une situation de crise. Là, les généraux se réunissent et on prend des décisions, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et c'est un petit peu la même chose ici dans notre texte. Il va falloir faire quelque chose. Alors ici, on parle des Juifs, mais c'est les Juifs qui ont été disséminés. Il y a eu une déportation, donc ils ont été dispersés un petit peu partout, dans l'Empire, dans le royaume de Xerxès. Donc il y avait quelques milliers dans une ville, quelques autres milliers dans une autre ville, et puis il y en avait un certain nombre qui étaient à Suse, ici la capitale. Et donc ça veut dire qu'ils sont en minorité, ils ont perdu leur terre, et maintenant ils vont perdre leur vie. Est-ce que vous avez déjà vécu vous-même ce que vous pourriez appeler pour vous-même une situation de crise? Ou bien, est-ce que vous le vivez actuellement? Est-ce que vous êtes dans une situation que vous appelez une situation de crise? Ou bien, est-ce qu'une situation de crise pourrait arriver bientôt dans votre vie? En fait, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Alors, une crise pour nous, c'est pas forcément, bien sûr, un génocide. Il y a parfois des crises dans le couple. Le couple vit des situations de crise. À un moment, ça devient vraiment difficile. Dans les familles, avec les enfants, parfois on vit des situations de crise. Même dans une église, c'est triste, mais parfois une église vit une situation de crise, ça arrive. Il y a dans le travail, c'est possible aussi. Et la crise, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui arrive soudainement et qui va bouleverser l'équilibre de la situation. Tout allait bien, et d'un seul coup, tout s'effondre. C'est un problème, c'est un accident, quelque chose de ce genre. C'est aussi parfois quelqu'un qui prend une décision qui est une mauvaise décision et qui engendre des conséquences fâcheuses. C'est un élément extérieur qui vient perturber une situation. Et dans notre texte ce matin, Dieu nous montre la gestion finalement d'une situation de crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir? Alors il y a des choses qui sont évidentes et puis d'autres où Dieu peut aussi nous parler et nous enseigner quelque chose au travers de Mardoché et d'Esther. On va relire les versets 1 et 2. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Et ici, la première chose qui est logique, qui devrait être naturelle, c'est de s'humilier devant le Seigneur et de chercher sa face. Chercher la face de Dieu. Mardoché déchire ses vêtements, il prend un sac de toile de jute pour habit, et puis il se jette de la cendre sur lui-même. Alors pour nous, aujourd'hui, c'est une autre culture, c'est un autre temps. Il ne nous viendrait pas à l'idée de faire la même chose aujourd'hui. Mais dans le geste, on comprend l'humiliation d'un homme. Ceux qui faisaient cela, prendre le sac, se jeter de la cendre, ils affichaient la tristesse, la désolation qui était en eux. Et d'autre part, ils cherchaient la face de Dieu. C'était un moyen de chercher Dieu. On peut se souvenir d'un autre, homme dans les Écritures qui a fait la même chose, c'est Akab. C'était pas le même homme que Mardoché, mais pourtant ce roi d'Israël a fait la même chose. À un moment, eh bien, il a pesé le poids de sa culpabilité. Les circonstances étaient différentes, mais il a pesé le poids de sa culpabilité. Bien que c'était un homme qui était vraiment mauvais, il a pris un sac, il l'a mis sur son corps, il a jeûné, et puis il a marché lentement. Et Akab était un roi mauvais, vraiment mauvais. Et regardez ce que Dieu a dit à Élie, son prophète, au sujet d'Akab, le mauvais roi. Il a dit, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. » Et on sait combien Akab est mauvais, et on se dit, mais Dieu était sensible à son humiliation. Le fait de le voir, eh bien, voilà, dans le sac, dans la cendre, il était sensible à son humiliation. Et dans cette attitude, il y a une vraie volonté de chercher Dieu, d'avoir son attention, de montrer sa désolation et de dire, j'ai besoin de toi. Quand quelqu'un avait péché, c'était un signe de repentance. Mais ici, ce n'était pas le cas de Mardoché. Mardoché n'avait pas péché. Simplement, il voulait trouver Dieu, chercher Dieu, avoir son attention. Il le cherchait. Alors, c'est vrai aussi que dans la culture orientale, c'est souvent très démonstratif. Hein, et là, ben, c'était démonstratif. Hein. Mardoché ne cachait pas la désolation de son âme. Il a appris ce génocide programmé. Et voilà, il est abattu. Et à notre manière, eh bien nous aussi, quand on vit une situation de crise, on peut montrer notre humiliation. On peut chercher le Seigneur et voilà, se placer devant lui et chercher vraiment sa face, jeûner, prier, pleurer, demander. Une situation de crise, elle doit pousser logiquement à chercher la face de notre Dieu. C'était vrai pour Mardoché, et puis ça a été vrai aussi pour tous les Juifs. On le voit dans le verset 3. Il est dit, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Et donc, c'est tout un peuple qui se met à prier, à pleurer, à jeûner, à s'humilier. Et si Dieu était sensible à l'humiliation d'Akab, eh bien, combien il est sensible aussi à son peuple, et notamment parmi tous ces Juifs, il y avait aussi certains que Dieu reconnaissait comme justes, hein, durant leur temps, bien sûr, hein, et Dieu était sensible. Est-ce que nous, si vous êtes rachetés de l'Éternel, si vous êtes enfants de Dieu, est-ce que Dieu serait insensible quand nous, eh bien, on va pleurer, on va prier, on va invoquer le Seigneur de tout notre cœur? Dieu est sensible. Quand on lit les évangiles, où Dieu nous adresse des paroles, il dit à un moment, au travers d'une parabole, il nous dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui prient, qui, voilà, jour et nuit, qui réclament? À combien plus forte raison il leur fera justice? Et ça, c'est vraiment un encouragement pour nous à prier, justement, dans les situations de crise, et avoir cette attitude de cœur sincère, s'humilier devant le Seigneur. Alors, dans notre texte, va s'ouvrir un dialogue entre Mardoché, qui est dans la cour, en bas, et puis la reine Esther, qui est dans le palais. Ils ne peuvent pas se voir, hein, ils sont séparés, mais eh bien, au travers d'une personne, d'un eunuque, il va y avoir un dialogue. Et après avoir expliqué à Esther ce qui se passait, la raison de son humiliation, Mardoché va donner un ordre à Esther. Donc Mardoché, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Mardoché était l'oncle d'Esther. Et donc, il était son tuteur, hein, pardon, il était son cousin. C'est ça, il était son cousin plutôt. Et donc, il va donner un ordre à Esther, qui était beaucoup plus jeune que lui. Il est dit, il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Et donc, Mardoché dit, mais puisque tu es maintenant dans cette position de reine, alors, eh bien, va voir le roi et implore la grâce du roi envers le peuple juif. Et on doit comprendre que tous les Juifs, là, l'édit dit que tous les Juifs peuvent être exterminés en un seul jour. Tous les Juifs. C'est une situation vraiment dramatique, hein, dramatique. Et regardez ce que dit Esther, versets 10 et 11. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. C'était celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, quelle est la réponse d'Esther ici? Elle dit, non, je ne peux pas. Je n'ai pas été appelé. Je ne peux rien faire. S'il ne m'appelle pas, je ne peux rien faire. Ça, c'est la réponse d'Esther. Alors, certainement, on peut se dire que c'est un peu normal qu'elle réponde cela. Mais du fait de l'urgence de la situation, tous les Juifs vont être exterminés. Et du fait aussi de la réaction de Mardochée, juste après, eh bien on comprend qu'il y a quand même une fuite, en fait, ici dans le cœur d'Esther. Hein. Elle fuit quelque part, non, je ne peux pas, je ne peux rien faire, on va donc attendre. C'est ce qu'elle propose, attendre. Et la deuxième chose que l'on peut dire, c'est que dans un temps de crise, eh bien ça nous oblige à prendre nos responsabilités. Quand il y a une crise, il faut prendre ses responsabilités. Et c'est la deuxième chose vraiment à retenir. Prendre des décisions, ça nous pousse à faire ce qu'il faut, coûte que coûte. Il faut agir, même si c'est dur. Et c'est ce que Mardochée va lui dire, versets 12 à 14. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et là, Mardochée met Esther devant ses responsabilités. Ce n'est pas un temps de repos, ce n'est pas un temps d'attente, mais c'est une crise qui oblige à prendre des décisions. Et la réponse de Mardochée nous laisse penser qu'effectivement, eh bien, Esther, d'une certaine manière, peut-être veut rester en retrait, en fait. Hein. Elle se sentait en sécurité et elle oubliait que ce n'était pas par hasard qu'elle était devenue une reine. Et on peut souligner ici aussi la foi de Mardochée dans cette parole. « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Autrement dit, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Si toi tu fais rien, ben, Dieu va faire quelque chose quand même. Il ne fera pas par toi, mais il fera quelque chose. On peut se demander, mais est-ce que nous aussi, on a la même attitude que ce Mardochée dans les situations de crise? Quand on vit quelque chose, est-ce que nous avons la foi aussi que Dieu va intervenir, que Dieu va faire quelque chose par un moyen ou un autre? C'est pas forcément le chemin que nous choisirions, mais c'est ainsi. Dieu permet des crises dans nos vies et il nous amène à les traverser. On doit aussi parfois traverser des choses qui sont difficiles. Mardochée lui dit, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Peut-être pendant un moment, Esther s'est dit, « Oh ben quand même, moi je suis protégée. Je suis dans mon palais, voilà, je mange les mets, je profite de tout. » Tout ce qu'il y a autour de moi, des riches tissus, voilà, de tous ces eunuques qui sont à mon service. Et soudain, Mardochée la ramène devant la réalité. Il lui dit, mais attends, si tu es reine, c'est peut-être parce que Dieu est en train de préparer quelque chose et que Dieu t'a mis là, justement pour une raison particulière. Et Dieu permet aussi des situations dans nos vies parce qu'il est en train de viser un but. Il a un objectif. Et le but, parfois, c'est caché, et soudain, ça devient très clair. Ça devient une évidence. Parce qu'il y a un temps de crise qui émerge, et on comprend que Dieu a tout préparé en vue de ce temps de crise. Par exemple, parfois, vous avez beaucoup d'argent d'un coup. Et là, vous faites des plans sur la comète. Ah, ben, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et bing, situation de crise qui arrive. Et là, vous dites, ah, ok, bon, ben, on va pas faire ça. Je sais pourquoi j'ai beaucoup d'argent. Et voilà, Dieu permet des situations comme ça. Parfois aussi, on est élevé à une position élevée hein, de décision, où on peut prendre des décisions, on a une capacité d'agir. du fait de notre position, on a des cartes en main, si je peux dire. Et Dieu aussi, peut-être, prépare quelque chose. Il est en train de viser un but que nous ne voyons pas au départ. Et Esther avait besoin d'en prendre conscience. Elle n'était pas reine par hasard. Alors, finalement, elle va faire ce qu'il fallait. Elle va s'humilier. On lit ça au verset 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et quatrièmement, un temps de crise nous oblige à l'abandon. C'est l'abandon. Esther est devant un choix qui est crucial, un choix déterminant, un choix qui même met sa vie en jeu, un choix qui l'oblige finalement au renoncement et à l'abandon. Renoncer. Elle dit, soit j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Il y a une résolution du cœur, elle est prête à tout faire. Et si elle est cohérente avec elle-même, avec son peuple, ben, elle n'a pas d'autre choix. Elle doit le faire. Parce que la situation est critique. Et peut-être aussi, eh bien, vous vivez une situation de crise et Dieu vous pousse vers l'abandon, en fait. Vers l'abandon. Avant cela, peut-être, c'est vrai, on aime Dieu. C'est vrai, on sert Dieu. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Finalement, la crise, elle est un révélateur. Dieu nous pousse et dit, mais jusqu'où tu es prêt à aller? Abandonne-toi, renonce. Au départ, Esther peut-être n'était pas prête à mourir, mais là, le peuple juif est en jeu. Et après réflexion, eh bien, elle renonce. Elle décide de s'oublier. Elle décide de ne plus penser à elle-même, mais de penser à ceux qui ont besoin d'elle. C'est vrai que naturellement, l'homme peut être égoïste. D'abord, on pense à soi, à nos intérêts personnels, notre bonheur, nos besoins, et puis soudain, hop, on met tout de côté, et puis on pense aux autres, on pense aux besoins des autres. Et la situation de crise, qui est une épreuve, qui est une souffrance, finalement, elle s'avère devenir un bienfait, parce qu'on n'est plus consacré au Seigneur, parce qu'on se donne davantage au Seigneur. Alors Esther va jeûner 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. C'est pas juste, elle saute un repas. Certains jeûnent, mais ils boivent quand même. Elle ne boit plus, elle ne mange plus pendant 3 jours, 3 nuits. Elle s'humilie vraiment devant le Seigneur. À noter, entre parenthèses, que le jeûne n'est pas ordonné dans les Écritures. Il n'y a pas un commandement qui dit « jeûner ». Et même quand vous lisez toutes les épîtres, donc les épîtres qui sont tout l'enseignement destiné à l'Église, il ne nous est pas dit « jeûner ». Jamais. Ce qu'on comprend, c'est que le jeûne, c'est plutôt un moyen de faire abstraction de tout pour dire « je cherche mon Dieu, cherche mon Dieu ». Et certainement, on peut dire, dans un temps de crise, ben voilà, ça s'avère vraiment important, et bien là, et bien c'est justifié de jeûner. D'un autre côté, il faut aussi faire attention aux jeunes, que ça ne devienne pas une œuvre de la chair un peu cachée qui fait que ben on s'élève au-dessus des frères et sœurs. Alors moi je jeûne, 3 fois par semaine plutôt, disait l'homme dans les évangiles. Il faut faire aussi attention, il y a aussi un piège, notre cœur il est tortueux. Et donc, voilà, ça peut devenir une œuvre charnelle qui n'a plus rien de spirituel, que Dieu ne demande pas. Il faut se remémorer aussi que Dieu entend nos prières. Dieu entend nos prières. Il n'a pas mis une condition comme il faut jeûner pour que Dieu entende. Non, il a dit demandez et vous recevrez. Il n'a pas dit jeûner et prier. Il a dit veillez et prier. Et puis il nous a dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire quoi? Parce qu'on est enfant de Dieu, mais l'accès est ouvert. Ça y est, on a la liberté de nous approcher du trône. On n'a pas besoin de sortir le jeûne en se disant « mais si je fais ça, alors bien Dieu va vraiment m'exaucer, sinon il ne m'exaucera pas ». Non, Dieu m'exauce, mais eh bien, dans une situation justement particulière, il peut y avoir un désir de l'âme de s'humilier devant Dieu et dire « Seigneur, voilà, je viens devant toi et pitié de moi. » Esther 5, versets 1 et 2. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Ensuite, cinquièmement, une crise, ça nous oblige à faire preuve de courage. Il faut du courage. Et là, Esther, eh bien, il lui en fallait vraiment. On oublie parfois que c'était une jeune fille, une jeune femme. C'était pas une femme de 30 ou 40 ans, hein. C'était une jeune fille. Elle avait peut-être entre 15 et 18, 20 ans, je ne sais pas, mais souvent elle était très jeune. Hein. Elle était très jeune. Donc, c'est une jeune fille. Et là, eh bien, elle doit se présenter de force, hein, forcer le passage, parce qu'il ne l'a pas appelée, devant le roi qui, lui, devait avoir un certain âge, hein, et qui a autorité de vie et de mort sur tout le monde, qui n'a pas trop de bienveillance et d'égard vis-à-vis de sa reine, on l'a déjà vu avec la précédente, hein, et donc, même ça fait 30 jours qu'il ne l'a pas vue, donc il ne se soucie pas vraiment d'Esther. Et elle doit, eh bien, forcer le passage et aller voir le roi. Alors, eh bien, elle pouvait craindre et se demander ce qui allait se passer. Il lui fallait du courage. Et c'est vrai que dans un temps de crise, eh bien, ça nous pousse aussi à faire ce que nous n'aurions pas fait autrement. Mais parce qu'il y a la crise, alors, eh bien, ça change la donne. À cause du problème, de l'urgence, de la situation, parce que c'est difficile ou tragique ici, comme dans cette histoire, alors, eh bien, on fait preuve de courage et on prend les décisions qui s'imposent. Une crise, on peut dire que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. C'est une expression qui est chère et qui est utilisée souvent dans les pays anglophones, hein, la zone de confort. Et vous savez ce que c'est, cette zone où on se sent en sécurité, où il ne se passe rien et il ne se passera rien. Parce qu'on met rien en jeu, en fait. On prend pas de risque. Et donc, voilà, tout va bien. Tout va bien. Ben, la crise arrive, et là, ça nous pousse à... Allez, il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je prenne des risques, finalement. Une situation de crise, ça nous pousse à nos limites. Et hop, on sort de notre zone. Mais aussi, ben, ça nous élève, quelque part. Hein, parce que, ben, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'on n'aurait jamais fait auparavant. Et donc, le temps de crise nous oblige à faire preuve de courage. Et c'est peut-être ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, hein, pour vous, être courageux. Versets 3 à 6. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, allez, tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et puis pour finir, dans un temps de crise, il faut aussi apprendre à marcher au pas de Dieu. Apprendre à marcher au pas de Dieu. Esther, c'est ce qu'elle a à faire. En fait, c'est simple. Il faut qu'elle dise la vérité au roi. Et qu'elle dise, mais voilà, il y a un mal qui a projeté d'exterminer tous les juifs, voilà. C'est simple. C'est simple. Mais en même temps, c'est pas facile. Parce que c'est pas une reine influente, voilà. C'est une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est rien. Elle est rien du tout devant le roi. Et une fois qu'elle aura dit au roi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va le faire? Et là, Esther fait quelque chose d'étonnant. Versets 7 à 8. Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » C'est curieux, c'est curieux. Esther ne dit rien à ce premier repas. Elle invite le roi à venir à un deuxième repas. Et on se dit alors, mais est-ce qu'elle a peur là? Est-ce qu'elle tremble? Elle n'ose pas finalement le dire? Est-ce qu'elle n'arrive pas à lui dire la vérité? Premier abord, on peut penser ça. Ou bien, est-ce qu'elle est en train d'être conduite par Dieu? Est-ce qu'elle est en train d'être conduite par Dieu? Et en fait, quand vous lisez la suite de l'histoire, vous voyez que le roi, dans la nuit suivante, va aller lire ses annales. Et là, il va découvrir que Mardoché, un jour, lui a sauvé la vie. Ce qui fait que ce Mardoché, qui était un inconnu lointain pour le roi, d'un seul coup va devenir un bienfaiteur très présent. Et tout ça, ça va contribuer finalement au plan de Dieu et à la délivrance de tout le peuple d'Israël. Et donc c'était important qu'il y ait ce délai supplémentaire. Et on s'aperçoit finalement qu'Esther, eh bien, elle se laisse conduire par Dieu. Elle est en train de faire ce qu'il faut. Elle est en train de rajouter un petit laps de temps. Dieu est en train de préparer la délivrance. Dieu avait un plan et il était en train d'exécuter son plan. Et lorsque vient un temps de crise, c'est facile de se dire, mais il n'y a plus rien qui va. C'est vrai, quand vous vivez quelque chose de très difficile, on peut avoir le sentiment que tout s'effondre, que tout nous échappe, que la situation elle est hors de contrôle. Même parfois on se dit, mais en fait le diable a le dernier mot ici. C'est lui qui est en train de gagner. Et on ne comprend pas, premier regard. Est-ce que vous ne pensez pas ça des fois? Vous dites, mais c'est le diable qui est en train de gagner là. Mais Dieu a un plan, il est en train de le réaliser, et particulièrement dans des situations de crise. Il n'a pas lâché. Il est toujours aux commandes. Il est toujours en train de conduire, même où il nous semble, selon notre point de vue, que plus rien ne va. Est-ce qu'on le croit? On chante « Notre Dieu règne encore ». Hein? Notre Dieu règne encore. Il faut le croire. Il règne encore, même là, dans cette situation difficile. Et dans cet instant où Esther demande au roi de venir au prochain repas, eh bien Dieu est aussi en train de régner. Il est en train de contrôler la situation. Et il faut toujours qu'on garde dans notre cœur cette pensée que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Toujours, toujours, garder cette pensée toujours dans notre cœur. Parce que la situation de crise, quand elle arrive, on n'est pas préparé. Parce que justement, c'est ça une crise. On n'est pas préparé. Mais si on a toujours cette pensée, alors eh bien, on arrive à se calmer et puis à regarder les choses avec le regard de Dieu. Bon Seigneur, tu es aux commandes. Je ne comprends pas, mais tu es en train de diriger. Tu es en train d'orienter les choses. Et finalement, c'était déjà la conviction de Mardoché dans son cœur. Lui, il vivait la même situation, mais il est convaincu. Il se dit, mais Dieu est aux commandes, parce qu'il va dire à Esther, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. C'est formidable. Formidable, cette foi qu'il a, certitude, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Jamais. Et même si Esther avait failli, admettons, Esther faillit, elle ne va pas voir le roi. On a un libre arbitre. Il y a des gens, parfois, on prend la mauvaise décision. Ben, Dieu n'est jamais dans une impasse. Jamais. Il exécute son plan. On le voit dans l'histoire du monde. Et je pensais à un exemple, c'est Abraham. Abraham, si vous vous souvenez, avec l'épisode du roi Abimelech, Abraham a peur. Il a sa femme, Sarah. Il dit, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Bon, c'était sa demi-sœur. C'est un demi-mensonge, Mais quand même, il dit, non, c'est ma sœur. C'est quand même grave. Et on se dit, ça nous renvoie aussi nos faiblesses humaines. Même Abraham, c'était le père des croyants. Et c'est vrai qu'il a manifesté une foi. Peut-être nous ne manifesterions pas, mais il était aussi un homme. Et on voit sa faiblesse ici. Il doute, il a peur à ce moment-là. Mais ça n'a pas empêché Dieu de protéger Sarah malgré l'incrédulité de son serviteur. Il l'a protégée. D'abord en donnant une vision à Abimelech, en disant « Attention, tu touches à Sarah. » Et puis aussi, il a permis la stérilité d'Abimélec, de sa femme, de ses servantes. Donc voilà, c'était ficelé. Dieu était aux commandes, Dieu était en train d'agir. Dieu se sert d'hommes, de femmes pécheurs, faillibles, mais il a un plan, et son plan ne peut pas échouer. C'est merveilleux. Merveilleux. Donc, nous ne sommes pas le jouet des circonstances. Voilà, et puis, voilà, comment ça va se passer? Dieu regarde, bon, je sais pas, on verra bien. Non, Dieu est en train de contrôler, Dieu est en train d'agir. Alors, il nous demande, nous, de prendre les bonnes décisions, justement, dans les situations de crise. De chercher la face de Dieu, d'être près de lui, de l'invoquer. Souvent, ça nous invite à prier davantage, peut-être à... Voilà, ça remet devant nos yeux. Peut-être que ma vie de prière, il faut qu'elle soit un peu plus sérieuse. Hein. Je ne peux pas me contenter de prier 5 minutes le matin, 2 minutes le soir, et puis dire merci pour les repas, et puis ça ira bien. Non. Dieu nous pousse à une vie de prière. Et la situation de crise dit, mais où es-tu? Où es-tu? Je cherche mon Dieu. Je cherche mon Dieu. Et puis ça nous secoue. Ça nous invite à prendre nos responsabilités. Il faut faire ce que Dieu nous demande. Ça nous oblige à renoncer, à abandonner, à nous consacrer au Seigneur, à faire preuve de courage, et puis à marcher au pas de Dieu. Être attentif, Seigneur, ben maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Quel est le prochain pas que je dois faire dans cette situation? Parce que, eh bien, je veux que je fasse les choses avec toi, dans l'obéissance. On va avoir un moment de prière. Si vous voulez prier, vous pouvez le faire librement. Je vais demander à un homme s'il veut bien commencer. Et puis après, vous pouvez prier librement. Et si Romuald veut bien terminer.